Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte ici régulièrement des histoires d'hommes et de femmes face à la maladie. Mais aujourd'hui, ce sera un peu particulier parce que le malade est célèbre. Et il est là, en face de moi. Bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
Vous êtes depuis plus de 25 ans le chanteur et le compositeur du groupe de rock Dionysos. À côté de ça, vous êtes aussi réalisateur de films d'animation, vous êtes aussi écrivain. Et d'ailleurs, je signale la sortie de votre dernier roman chez Albert Michel, Une sirène à Paris. Et en 2013, il vous est arrivé un drôle de truc. Vous étiez sur le point de sortir votre dernier film, Jack et la mécanique du cœur, quand on vous a diagnostiqué une maladie extrêmement rare et très grave, une aplasie médulaire. Votre moelle osseuse ne fonctionnait plus. Vous étiez à deux doigts d'y passer. Vous vous en êtes sorti à l'issue d'un parcours qui a duré un an. On vous a greffé du sang issu d'un cordon ombilical de bébé. Et vous racontez tout ça dans un livre paru en 2016, publié là encore chez Albin Michel, Journal d'un vampire en pyjama. C'est bien sûr à partir de votre livre que j'ai bâti mon histoire d'aujourd'hui. Je l'ai écrite avec Éloi Audouin Rousseau, réalisation de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Novembre 2013. Ce matin, je tourne le clip de ma dernière chanson, celle qui doit accompagner la sortie de mon prochain film d'animation, Jack et la mécanique du cœur. On est tous là, au studio, au ralenti. Rock'n'roll et réveil matinal vont rarement ensemble. Je me regarde dans la glace. Waouh, j'ai les cernes de E.T. Heureusement, le clip est en noir et blanc. Avec le maquillage, ça devrait aller.
Silence sur le plateau. Action.
Il était une fille tout en talons aiguilles, cœur de cactus.
On fait semblant de jouer, c'est ça un clip. Mais il faut bouger, et mes muscles se tétanisent.
Ok, on recommence, deuxième prise.
Il était une fille tout en talons aiguilles.
Je ne dis rien. Pendant les pauses, j'essaye de reprendre ma respiration. Je serre les dents, j'essaye de m'économiser. À la 30e prise, j'ai le mal de mer. Mais autour, on ne se rend compte de rien. La journée se termine enfin. Je croise mon reflet dans le miroir des toilettes. Je suis plus pâle que Dracula. C'est vrai que ça fait quelques mois que tout le monde me dit « T'es blanc, Mathias, non ? T'es très blanc ?» Alors le lendemain, je me fais faire une prise de sang. J'aurai les résultats mardi. Je sors. Je suis tellement au ralenti qu'une vieille dame avec un mini-chien coiffé comme elle me double sur la place de la République. J'arrive chez moi. Ça fait des semaines que je ne prends plus l'escalier. Mais là, même dans l'ascenseur, je suis essoufflé. Je m'allonge un peu. Et puis je me lève. Je vais pour appeler le taxi qui doit m'amener au montage de mon clip. C'est un numéro que je ne connais pas. Allô ?
Allô ? Monsieur Malzieu ? Docteur Galperovic à l'appareil. Dites-moi, le laboratoire vient de m'appeler pour me communiquer vos résultats en urgence. Il y a un sérieux problème, monsieur. Votre taux de globules rouges. Normalement, il doit être entre 14 et 17, il est à 4,6. Vous manquez d'oxygène, monsieur, dans le sang. Vous devez aller aux urgences vous faire transfuser immédiatement.
Tout de suite ?
Oui. Avec aussi peu de globules rouges, vous ne devriez même pas tenir debout. Et surtout, vous évitez les efforts, hein. Vous risquez l'accident cardiaque.
Je dois appeler quel hôpital ?
N'importe lequel. Le plus proche. Et surtout, vous ne tardez pas.
Je m'assois sur mon lit. Je me repasse le souvenir de ma journée d'hier. À sauter partout, j'aurais pu me cramer le cœur en direct.
Allô ? Oui, c'est encore le docteur Galperovic. Je viens de recevoir de nouveaux résultats. Vous avez saigné du nez récemment ?
Oui.
Ok. Votre taux de plaquettes est très bas. Surtout, vous ne vous rasez pas. Et vous essayez de ne pas vous cogner. Par ailleurs, votre taux de globules blancs est aussi très bas. Tout ça est très inquiétant, monsieur. Il va falloir explorer votre moelle osseuse.
Un ami médecin me conseille l'hôpital Cochin. Je suis pris en charge tout de suite. On me colle sur un fauteuil roulant. Je peux marcher, hein ? Ah non, non. On nous a dit de vous transférer en fauteuil. J'arrive dans un endroit où tout le monde porte un masque et un filet sur la tête. On se croirait dans une centrale nucléaire de science-fiction. Une sorte de porte de congélateur, un sas, un voyant qui passe du rouge au vert, une deuxième porte. Et me voilà dans une chambre stérile. Mais qu'est-ce que je fous là ? La porte se referme, je suis prise au piège. À l'heure qu'il est, je devrais être en montage de mon clip. Entre alors un bataillon d'infirmières avec un masque et tout un tas d'instruments de torture. Et mon hématologue. Bien. Je vais devoir pratiquer un geste assez désagréable qu'on appelle un myélogramme. Ça consiste à prélever un peu de moelle osseuse dans votre sternum pour tenter de comprendre pourquoi vous ne produisez plus de globules. Allongez le bras. Oui, le long du corps, voilà. Respirez. Essayez de vous détendre, monsieur. Ne bougez plus. Attention, je pique. C'est peu de le dire. Je transperce, eût été plus juste. J'ai l'impression de me faire poignarder. On dirait qu'on m'arrache la cage thoracique. Voilà. Vous pouvez souffler, c'est fini. Ah mince, il y a trop de sang dans le prélèvement. Il faut recommencer. Deuxième coup de harpon. Quelques heures plus tard, l'hématologue est de retour. Bien. Nous avons un premier résultat. Il n'y a pas de blast. Donc, ça n'est pas une leucémie aiguë. Je n'ai pas osé vous en parler tout à l'heure, mais au vu de vos résultats d'analyse de sang, c'est ce qu'on craignait. Donc, c'est moins grave qu'une leucémie aiguë? Écoutez, je peux pas vous répondre pour l'instant. Au pire, vous aurez à subir une greffe de moelle. On en saura plus mardi. Le mardi, le verdict tombe. Aplasie médulaire. Ma moelle osseuse ne fonctionne plus. Je cherche un responsable. Mes excès de nuggets, de crêpes, de coca avec un peu de whisky dedans, ou alors le rock'n'roll, la mélancolie, le chagrin d'amour, le sommeil bâclé peut-être. Le Nutella? Eh ben non, c'est une loterie, un accident biologique. Une centaine de cas en France, surtout des enfants et des vieux. Je suis collector. L'hématologue m'explique. Alors ce sont vos propres anticorps qui se retournent contre vous. Je vous explique. Normalement, vos anticorps sont programmés pour vous défendre. Mais là, vos anticorps s'en prennent à vos globules. On ne sait pas vraiment pourquoi. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Et nous allons devoir envisager une greffe de moelle osseuse. Finalement, je peux rentrer chez moi. À condition de venir me faire transfuser au moins une fois par semaine. Car pour vivre maintenant, j'aurai besoin du sang des autres. C'est officiel. Je suis un vampire. Et on me promet une greffe de moelle osseuse. La moelle osseuse, ça n'est pas comme le cœur ou le rein. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, on la confond souvent avec la moelle épinière. En attendant, pas d'effort physique violent. Évitez les lieux publics, les bisous. Ne jamais se cogner. Revoir les concerts, les copains, les bars, le cinéma, le vélo, le skateboard. Même me laver les dents avec une brosse est devenu trop dangereux. Alors voilà le programme. Il faut me trouver un donneur de moelle compatible. L'idéal serait ma sœur. Une chance sur quatre qu'elle soit compatible. Mais je vous le dis tout de suite, elle ne sera pas compatible. Et après, c'est la loterie du fichier mondial des donneurs. Une chance sur 1 million. Avant la greffe, on me dit qu'il y a peut-être un traitement. Un traitement anti-lymphocytaire, en chambre stérile. Greffe, pas greffe. Hospitalisation, pas hospitalisation. Greffe? Oui, non, peut-être, sûrement, maintenant, plus tard, tout de suite. J'ai les nerfs à vif, à force. Le médecin veut que je fasse le traitement maintenant. Moi, je lui propose un deal. Ok pour m'enfermer dans une chambre stérile, mais après le 5 février. Après la sortie de mon film.
On va pas pouvoir attendre le 5 février. Vos globules blancs sont trop bas. Vous risquez une infection. Je sais que c'est difficile pour vous, mais là, ça devient trop risqué. S'il vous plaît, j'aurai tout le temps pour me reposer après. Vos analyses sont en baisse. Le risque infectieux augmente. C'est dangereux de vous laisser dehors aussi longtemps. Écoutez, c'est très important pour moi d'aller défendre ce film jusqu'au bout. Je viendrai le 6 au matin, s'il le faut. Bon, je comprends. Je vais aller en parler avec le reste de l'équipe. Je vous tiens au courant.
Là-dessus, le téléphone sonne. C'est ma productrice. Elle n'est pas au courant. Je n'ai rien dit. Elle veut que je confirme la date du grand journal de Canal+. Et puis l'attaché de presse appelle. Le planning se remplit. Je ne sais plus quoi répondre. Je continue à dire oui et puis...
Bon. Monsieur Malzieux, vos analyses sont à peu près stables. On est d'accord pour une hospitalisation à partir du 6 février. Mais surtout, soyez prudent. Et si vous avez de la fièvre ou quoi que ce soit, vous nous appelez.
Il me reste 14 jours à parcourir en terrain miné. Le compte à rebours est lancé. Janvier. L'avant-première est dans 3 jours, la sortie du film dans 5, et l'entrée en bulle stérile dans 6 jours. Et me voici au grand journal. Au maquillage, c'est plus long que d'habitude depuis que je suis un vampire. Pas évident de sourire en serrant les dents. J'ai peur de saigner, j'ai peur de pleurer, j'ai peur de bredouiller. Je dois faire croire que je suis à la cool. Je saigne du nez, mais seulement pendant la page de pub. Et personne ne se rend compte de rien. Et après, vient l'avant-première de mon film. La projection du film démarre. Je connais chaque plan par cœur. Et je le vois peut-être pour la dernière fois. J'aimerais que ce film dure pour toujours.
Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette.
6 février, hôpital Cochin, 4e étage. Rosie, ma chérie, m'aide à porter mes bagages. Pendant toute la durée de mon hospitalisation, nous ne pourrons ni nous embrasser, ni nous toucher. Seulement se voir du bout des yeux. Me voici en chambre stérile.
On va vous installer un cathéter central, hein. Ça va vous éviter d'être piqué tous les jours pour les bilans sanguins, les transfusions, le traitement, tout ça. Tout va passer par là, hein, ce sera plus confortable pour vous.
Au-dessus de mon lit, il y a une sorte de gaufrier géant. Ils appellent ça le flux. Ça filtre l'air, c'est un bouclier antimicrobe. 10 février. Je suis ici depuis 4 jours. Hier, le traitement a coulé dans mes veines jusqu'à 2h du matin. Et tous les jours, Rosie traverse la ville et vient me sourire du bout des yeux. Elle a son masque, sa charlotte, sa blouse, je n'ai pas le droit de la toucher. Quand les batteries de l'espoir se vident, elle se transforme en chargeur et elle remet mon cœur en route. 20 février.
Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Malzieux ? Oui, des bisous. J'en ai marre de pas avoir de bisous.
Le lendemain, l'infirmière m'apporte une feuille de papier sous plastique avec écrit « Bonne nuit » et 2 baisers rouges. Février. J'écoutais de la musique, je n'ai pas entendu le médecin rentrer.
Bien. Vos globules remontent. Donc on suspend l'isolement. Si les globules blancs se stabilisent, vous sortez dans quelques jours.
C'est le début d'une nouvelle aventure. Je mange dans une véritable assiette. Je peux sortir de ma chambre. Et je prends une putain de douche. Mais le lendemain... Mauvaise nouvelle. Les globules sont repartis à la baisse. Je me voyais déjà foutre le pyjama à la poubelle, aller voir mon film au cinéma. Je m'y voyais déjà. 1er mars. La baisse des globules blancs se confirme. Mon système immunitaire est en train de s'éteindre. Les infirmières ont remis les masques ce matin.
Et je m'en vais.
L'espoir s'est bien foutu de ma gueule. Combien de temps encore? Peut-être des mois, m'a dit l'interne. 10 mars. Le professeur entre dans ma chambre.
Bon, vos globules blancs ne remontent pas aussi vite que je l'espérais, mais il y a quand même un petit mieux. Au cas où, nous allons relancer les recherches pour un donneur de moelle. En attendant, vous allez peut-être pouvoir sortir.
Il est question que je sorte demain. Mars. Je viens de passer 5 semaines enfermé dans une chambre stérile et aujourd'hui, je sors. La joie d'enfiler des chaussettes et de se sentir un peu moins petit avec des chaussures. Je retrouve ma guitare, mon ukulélé et je me glisse dans le lit avec une bouillotte vivante contre mon ventre. 16 avril. Un mois que je suis sorti. Le taux de globules est stable mais ne s'améliore pas. Je suis toujours dépendant des transfusions. L'idée d'une greffe de moelle est évoquée de plus en plus souvent. 1er juin, la Coupe du monde de foot approche. J'écris de nouvelles chansons, mais les globules ne veulent toujours pas remonter. Seules les transfusions me maintiennent en vie. Et pour la greffe, on me dit tous les jours à l'hôpital.
On saura la semaine prochaine.
15 juin. J'ai rendez-vous avec le professeur Péfaud de la Tour, spécialiste de la greffe de moelle. Cette fois, c'est à l'hôpital Saint-Louis.
Bon, nous n'avons pas trouvé de donneur entièrement compatible dans le fichier mondial. Il nous reste donc 2 possibilités. Soit on tente une greffe avec un donneur compatible 9/10, soit on vous greffe le sang d'un cordon ombilical. C'est une technique qui est d'habitude réservée aux enfants, mais... avec votre petit gabarit, on a de bonnes chances. Ça a déjà été tenté sur 18 adultes, ça a marché pour 15. Ah, et les 3 autres? Décédés. Mais ils cumulaient d'autres pathologies. Si je vous le propose, monsieur Malzieu, c'est parce que je sais que nous pouvons vous ramener à une vie normale. Et ça marche comment? Le sang du cordon ombilical des bébés contient des cellules qui sont capables de se transformer en cellules de moelle osseuse. L'inconvénient, c'est qu'au lieu de remplacer un arbre malade par un arbre neuf, là, on plante des graines, donc il faut du temps pour que ça pousse. Hein, au moins 2 mois en chambre stérile. Et au moins 6 mois sans trop s'éloigner de l'hôpital. Vous faites de la musique, je crois. Oui. Alors, il va falloir vous préparer comme pour un très gros concert.
Alors je me prépare, comme Rocky Balboa dans les bois, mais chez moi. J'ai un fauteuil en forme d'œuf. Je me mets dedans avec mon ukulélé et j'écris des chansons. Et je les enregistre, comme un Père Noël qui distribuerait des cadeaux en plein été de peur de mourir à l'automne. Je sens une nouvelle force m'envahir sous les tonnes de plomb qui ralentissent mes pas. 1er septembre, J-30. Une batterie d'examens m'attend avant la greffe. Et on me suggère de stocker mes spermatozoïdes dans une banque. L'irradiation totale de mon corps pourrait me rendre stérile. Si je veux être père, je dois faire des provisions pour l'hiver.
Monsieur Malzieu?
Oui?
Suivez-moi.
Alors voilà, hein. Je vous donne un petit récipient. Bon, là, il y a une télé, il y a des vidéos, puis là, vous avez des magazines. À tout à l'heure. Et quand vous avez terminé, vous fermez bien le couvercle du flacon et vous pouvez partir.
Septembre. Contre-temps. J'ai une infection du poumon. Ça n'est plus le moment de détruire mon système immunitaire. La greffe de sang de cordon est donc reportée. 11 octobre, J-3. Je passe toute la nuit à enregistrer avec mes copains. Et je fais une petite fête chez un disquaire pour la sortie d'un 45 tours de quelques-unes de ses chansons que j'ai enregistrées récemment. Octobre. Demain, j'entre en grève. Et ce soir, Rosie et moi, on va au lit en se disant que peut-être c'est la dernière fois. Rosie s'endort. Il fait presque jour. La fatigue me pique les yeux, mais je prends le temps de la regarder dormir. Je caresse ses cheveux, son dos, ses fesses. La sensation se pyrograve dans ma mémoire. 14 octobre. Je prends ma dernière douche. Je me lave les cheveux tant que j'ai droit au shampoing. Et cette fois, j'ai le droit d'emmener mon piano, mon ukulélé et ma guitare folk. C'est contre la mélancolie. 14h57. Il me reste 3 minutes pour arriver au service de greffe de moelle. Mais je connais les couloirs. Le sas, dans lequel on entre en actionnant un interrupteur avec l'avant-bras, pour ne pas toucher avec les doigts. Je connais aussi déjà la chambre, on me l'a fait visiter avant, pour amortir le choc. Il y a un frigidaire sous la table de chevet, un lavabo qui sert de douche, un placard. Le plafond est très bas, c'est très sombre. Ça y est, j'y suis. 5h. Ça commence par une chimiothérapie, bien lourde. Au revoir ma crinière d'écureuil. D'abord détruire, avant de reconstruire. Je joue du ukulélé pour ne pas trop penser aux premières nausées. 20 octobre. 5 jours ont passé. Et je supporte plutôt bien le traitement. Avec la cortisone, j'ai juste l'air d'un hamster malade. Mais ça va. La destruction de ma moelle osseuse malade passe par l'irradiation massive de mon petit corps. Et donc à la chimio, on ajoute des rayons. On m'habille en cosmonaute et en ambulance, on m'emmène me faire flaguer au rayon X. Comme une tartine dans un grille-pain. Ça y est, je suis à zéro. Je n'ai plus de moelle osseuse. Et d'une certaine manière, je ne suis plus malade. Tout reste à reconstruire. 21 octobre. C'est le très grand jour. C'est le jour de la greffe. Aujourd'hui, on va me planter des graines dans le corps pour qu'elles aillent se loger au fond de mes os. Aujourd'hui, le sang prélevé dans le cordon ombilical d'un bébé le 12 juillet 1999 et congelé depuis à moins 190 degrés va couler dans mes veines. Une infirmière arrive.
Bonjour. Je viens pour vous greffer.
Elle a des petites poches à la main. Elle règle le goutte à goutte.
C'est parti.
J'ai l'impression que le sang vient directement de son sourire. J+5. Ce matin, je me suis levé du lit et d'un coup, blackout. J'ai perdu connaissance, je suis tombé, ma tête a dû heurter le lavabo, je me suis réveillé avec le menton des frères Bogdanov, un énorme bleu violet sur le côté droit et un coquard à l'œil gauche. Et dans ma chute, j'ai fait une hémorragie cérébrale. Scanner, IRM.
On doit vérifier l'ampleur de l'hématome. S'il est trop important, on va vous transférer dans un hôpital spécialisé en neurochirurgie, d'accord ?
Et au final, une double fracture du crâne. Le sinus cassé façon boxeur et le zygomatique brisé. Le zygomatique, c'est l'os qui bouge quand on rit. Je l'utilise pas beaucoup en ce moment. October 27. Subir. Souffrir. Transpirer. Frissonner. La fièvre ne baisse pas. Les machines sonnent. Le saignement est résorbé, il n'y aura pas d'opération. 30 octobre. Sous mon oreiller, je commence à trouver des cheveux, et puis des mèches de cheveux. Alors un infirmier me rase tout.
4 novembre. Les premiers globules blancs apparaissent dans ma prise de sang de ce matin. Une bonne nouvelle ! À prendre avec des pincettes. 12 novembre. Depuis quelques jours, je vais tellement mieux qu'on commence à m'enlever les fils qui me relient à la machine. Après une année de noire danse, le jour pointe son nez. On me parle de sortir, peut-être dans 2 jours, juste pour le week-end. Ça y est, je sors aujourd'hui, avec un masque chirurgical, mais je sors. Je reviens au pays des vivants. Je suis le plus heureux des hommes. Novembre. Retour à l'hôpital, avec un petit côté retour à l'usine. 18 novembre. Le professeur vient m'annoncer de bonnes nouvelles. La greffe a pris. Les globules blancs montent. Les rouges se stabilisent. Les plaquettes descendent moins vite. C'est bien. Hein, vous êtes en avance sur les chronos. C'est très bien. Mais il ne faut pas se relâcher. Hein. Vous allez sortir. À la moindre fièvre, vous revenez direct. D'accord ? Décembre. Je vais régulièrement à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis rentré à pied. Je me suis vu mourir. Je me vois renaître. 24 décembre. Un duvet commence à repousser sur mon crâne. C'est le retour de mon panache roux. Et je crois que cette fois, c'est bel et bien reparti. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je viens de vivre l'aventure la plus extraordinaire que je n'ai jamais vécue.
Quand la lumière de tes hanches endormies se répand, me répond dans la nuit. Quand la lumière des étoiles engourdies se blottit dans le ciel de Paris. Un espoir prend feu au creux de la nuit. Dans tes yeux, dans le puits amoureux où je plonge en plein ciel, aura des étincelles. Là c'est l'heure des lueurs, c'est l'espoir, c'est la nuit, les étoiles qui se sont endormies. À des heures, des lumières nous éclairent aujourd'hui, remontant la rivière de minuit. C'est un leurre, c'est une lueur, et peut-être que tant pis, c'est le beurre argenté de minuit. Si demain c'est pas bon, qu'on me prend pour un con de rêveur, un chasseur de lueur. Je me dis qu'on verra, et peut-être que tant pis, mais demain je sais qu'il fera nuit. Oh demain je sais qu'il fera nuit. Oh. Un espoir prend feu au creux de la nuit. Dans tes yeux, dans le puits amoureux où je plonge en plein ciel, aura des étincelles.
Disponible sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.